Les municipales 2026, on connaît la donne dans l'ensemble des communes de Calédonie après la publication des listes en présence dans les 4 communes de moins de 1000 habitants. Et sur RRB, nous poursuivons notre tour d'horizon des listes engagées commune par commune. Ce soir, coup de projecteur sur les 3 listes en présence à Lifou. Dans le reste de l'actualité, le vide-grenier de la place des Cocotiers, c'était ce dimanche à Nouméa, avec les visiteurs qui ont encore répondu présent. La finale du concours territorial de barbecue, c'était aujourd'hui au Fort Amédée. Brochettes, grillades, marinades, burgers, les spécialistes du genre ont ravi les papilles du jury. L'actualité internationale avec le 9e jour de guerre en Iran, des nouvelles frappes du régime de Téhéran visaient les Émirats Arabes Unis. Le sport, la F1, avec le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, c'est George Russell sur Mercedes qui a remporté une course très animée. La saison 2026 s'annonce épique. Et en Calédonie, la fin de la Tactical Race, premier événement du genre sur le territoire avec 250 inscrits sur une course mêlant endurance et exercice physique. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. C'est dans une semaine, le dimanche 15 mars, qu'aura lieu le premier tour des élections municipales. Et on connaît désormais la donne totale pour ce scrutin. En effet, les listes qui se présenteront dimanche prochain dans les 4 plus petites communes de Calédonie sont désormais connues. Elles ont été rendues publiques ce matin par les services du Haut Commissariat Lionel Sabot.
Il s'agit des 4 communes qui compte moins de 1000 habitants, Belep, Farino, Moindou et Saraméa, mais elles ont chacune de nombreux candidats. Il y aura ainsi 5 listes à Belep, c'est une surprise et si vous me passez l'expression, c'est énorme pour une commune de cette taille. Rappelons que lors du dernier scrutin municipal, il y a 16 ans, 2 listes seulement étaient présentes à Belep. On notera que le maire sortant, Jean-Baptiste Moilou, ne figure sur aucune des listes. 5 listes ont également été déposées dans la commune de Moindou. Le maire sortant, Joseph Perronnet, se représente pour un 4e mandat. Amandine Darras, deuxième secrétaire générale de l'Union calédonienne, est également tête de liste à Moindou. À Farino, il y a 4 listes en présence, dont une liste tirée par Jean-Christophe Niotou. C'est le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. 4 listes aussi à Saraméa, dont une est conduite par le maire sortant, Prisca Olero, qui briguera un 2e mandat consécutif, mais un 3e mandat au total, puisqu'elle avait été maire entre 2008 et 2014, avant d'être réélue en 2020. Ces 18 listes viennent s'ajouter aux 123 listes déjà enregistrées dans les 29 autres communes de Nouvelle-Calédonie, comptant plus de 1000 habitants. La semaine prochaine, ce sont donc 141 listes au total qui seront en course pour le premier tour des élections municipales.
Des élections municipales à vivre sur Radio Rythme Bleu. Nous poursuivrons durant tous les derniers jours qui nous séparent du scrutin, nos pages spéciales consacrées à la présentation de la donne du scrutin dans les différentes communes du territoire. Et ce soir, Lionel, nous prenons avec vous la direction de Lifou.
Ah oui, Lifou qui est la plus grande et la plus peuplée des îles Loyauté, 9225 habitants pour une superficie de 1207 km². Lifou qui compte, et il est bon de le rappeler, sur son domaine communal, l'île de Tiga. Lifou, c'est aussi 37 tribus réparties sur 3 districts. Le village principal est Wé, village dans lequel on trouve le siège de la province des îles Loyauté, mais aussi évidemment la mairie de Lifou. Pour ce scrutin 2026, ce sont 3 listes qui seront en lice. D'abord, la liste Unité Nationaliste Djéoutoka, qui est tirée par René Caudré, qui est membre du Parti Travailliste. C'est d'ailleurs sous cette étiquette qu'il était tête de liste il y a déjà 6 ans.
C'est une liste unitaire des partis indépendantistes non UC, puisque l'UC a préféré faire une liste sous sa bannière, quoi, toute seule. Donc nous, on a regroupé toutes les autres composantes qui font partie du FNKS. Hein. Nous, on a essayé de faire le plus large possible. On a ouvert la liste, par exemple, aux jeunes de la CCAT qui ont voulu aussi un peu être présents dans le débat sur les municipales. Donc voilà, il y a aussi des gens de la CNDPA, tout ça, qui les anciens du LKS, Dynamique Autochtone, et un nouveau petit parti qui s'appelle Alternative Loyal Sien, Djéoutoka.
Une liste éclectique qui veut avant tout mettre en avant la jeunesse de l'IFU. On retrouve René Caudry.
C'est un sujet bateau, hein. Mais moi, j'observe que, par exemple, dans ma tribu, j'ai 17 jeunes qui sont partis ces dernières années. Ils sont tous partis en France, quoi. Recrutés dans la gendarmerie, dans l'armée, dans les concours pour les gardiens de prison. Et dans une commune ou dans une tribu, la force vive, c'est la jeunesse, quoi. Donc on s'aperçoit que de plus en plus, des tribus se meurent un peu. parce que toute sa force vive a quitté l'île. Il y a les problématiques du quotidien, mais les crises depuis le Covid, depuis le 13 mai. Les gens ne souffrent pas directement de ça, quoi. Mais il y a des gros problèmes qu'il faut résoudre, comme les problèmes budgétaires dans les communes. Le peu qu'on a, mais est très efficace, quoi. Il y a l'environnement chez nous, dans les îles, c'est critique. Les îles sont devenues un peu des poubelles, un peu de la société de consommation, quoi.
Deuxième liste présente dimanche prochain à Lifou, la liste tirée par Pierre Caizé et baptisée Union Citoyenne GDEU, une liste composée à 100% de militants de l'Union Calédonienne.
C'est une liste purement de l'Union Calédonienne. On a envie de se compter, puis de voir un petit peu ce que ça représente, parce que depuis longtemps, on n'a plus eu le temps de voir notre capacité, etc. Donc voilà pourquoi on a décidé de partir comme ça, tout en sachant que peut-être s'il y a un deuxième tour, les autres vont conduire FLNKS pour partir ensemble. Nous savons que soit des résultats de l'Union Calédonienne vont être interprétés à différents niveaux. Avec la situation politique du pays, les résultats seront regardés à des niveaux plus élevés. Pour nous, il est question de montrer quand même que nous sommes présents sur le terrain.
Pierre Caizé, ses colistiers, a dit que vouloir s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait lors des dernières mandatures, une liste qui souhaite mettre l'homme, mais pas seulement, au centre des priorités.
L'homme au cœur du développement, la culture comme fondation et la souveraineté comme horizon. Nous nous inscrivons complètement dans la continuité. On a gardé la commune de Lifou fiable. Ça fonctionne sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan financier, budgétaire. Nous avons le devoir de protéger cet outil, un outil de proximité, et qu'il faut conserver et puis gérer soigneusement. Mais avec quelques nuances sur certains domaines, donc innover sur certains plans, et puis peut-être amener un peu des choses nouvelles. Par exemple, le développement local. Le développement local ou le développement endogène, il faut confier le développement aux localités qui sont les tribus, leur confier tout ce qui concerne la jeunesse, par exemple, sans toucher à tout ce qui concerne l'enseignement qui est assuré par les enseignants, instituts et professeurs. Je crois que nous avons notre rôle à jouer. Les moyens sont en baisse, il faut s'adapter pour ne pas mettre à terre l'outil communal.
Troisième et dernière liste en lice, GEU Uni, une liste d'ouverture, comme on a coutume de le dire, sur laquelle se trouvent des indépendantistes, mais aussi des loyalistes. C'est Pascal Toupa ici qui tire cette troisième liste.
Le PALECA, qui est un parti indépendantiste dans lequel je fais partie, a fait une ouverture envers les non-indépendantistes de Calédonie Ensemble, de GEU, avec la personne de Jean-Éric Nahoué. Une ouverture qui cherche à dépasser les clivages politiques et qui prend en compte les différences de chacun pour construire un avenir commun au sein de la mairie de Lifou. Dans cette ouverture également, nous aurons aussi des membres de la mouvance dynamique autochtone. GEU Uni incarne aussi, par son programme, une vision politique que les composants nous épousons tous, celle de l'Union nationale pour l'indépendance, pour une souveraineté partagée.
Parmi les priorités de la liste menée par Pascal Toupa ici, l'environnement, la jeunesse, mais aussi et presque surtout la stabilité budgétaire dans un contexte post-émeute qui demande aux collectivités de s'adapter avec des budgets très contraints.
Nous serons très regardants sur le budget qui est menacé par la baisse des recettes fiscales. Ça demande beaucoup d'exigences et de rigueur. D'autre part, nous avons la jeunesse qui, par l'école, le sport et la culture, reste aussi une priorité. Ce qui concerne le transport scolaire, qui coûte 200 millions de francs par an. Et le but n'est pas de baisser cette enveloppe, mais surtout de garder la qualité du service. Il y a aussi la partie des cantines scolaires, hein, qui concerne aussi toujours la jeunesse. Les cantines scolaires où il y a un enjeu, celui de la qualité des repas. Nous proposons aussi ce qu'on appelle la gouvernance participative. Et cette gouvernance participative représente une véritable opportunité pour une commune comme nous, comme celle de Lifou, en terre coutumière, et surtout de concrétiser par des actions assez tangible.
Des propos recueillis par Kalinda Boiku. Voilà donc pour la donne du scrutin de dimanche prochain à Lifou, où trois listes seront donc en lice. C'est une liste de moins qu'en 2020. Notez également que le maire sortant de Lifou, Nekone Peoun, ne figure sur aucune de ces trois listes.
Des élections municipales à vivre sur Radio Rythme Bleu, nous le disions. En plus de la présentation du scrutin dans les différentes communes, nous poursuivrons nos débats. Et mardi prochain à midi, notez-le sur notre antenne, ce sera le débat consacré à la ville de Nouméa. La préparation des élections municipales qui sera évidemment le grand sujet de la semaine qui commence, Lionel.
Oui, c'est en effet la dernière ligne droite pour l'ensemble des 141 listes qui seront en lice dimanche prochain pour le premier tour. Des listes qui vont multiplier dans les prochains jours des réunions, les meetings et la campagne sur le terrain. La campagne officielle qui prendra fin à vendredi le 13 mars à minuit. Notez déjà que, comme pour chaque élection, toutes les équipes de Radio Rythme Bleu seront mobilisées dimanche prochain pour vous faire vivre au plus près le déroulement du scrutin avec en point d'orgue notre grande soirée électorale au cours de laquelle nous vous donnerons les résultats bureau de vote par bureau de vote et commune par commune. Dans le reste de l'actualité de la semaine, on notera plusieurs animations dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes. Dans l'actualité culturelle, c'est vendredi le 13 mars que sera dévoilé le programme de la saison 2026 du Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie. Samedi enfin, l'association des usagers du port de Port-Moselle et de la Sodémo organisera de 7h à 13h sur les quais de Port-Moselle la 4e édition des Puces Nautiques, un vide-grenier dédié au nautisme et baptisé Vide Tacal.
Notez également ce rendez-vous sur RRB. Demain, c'est le procureur général Camille Mancioni qui sera notre invité du matin. Rappelons que c'est vendredi dernier qu'a eu lieu la rentrée judiciaire. Le procureur général Camille Mancioni qui sera donc notre invité demain à 7h30. Et bien entendu, ce dimanche soir, à noter qu'il n'y aura pas de rediffusion du magazine Transparence à la fin de ce journal, puisque ce vendredi, c'est un débat sur la commune de Dimbéa qui était organisé sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, des événements se déroulaient tout au long du week-end sur cette thématique, notamment le Salon des femmes qui a attiré un très large public à la salle d'exposition de Nouville. Les exposantes étaient ravies.
Le ressenti est vraiment très bien, bien accueilli sur le salon. Les gens viennent nous découvrir, échangent avec nous et ça fait du bien.
80% des stands, c'est des dames. Et les gens se mobilisent, effectivement, à venir nous voir.
Moi, c'est un des premiers salons que je fais de l'année. Ça a l'air de faire plaisir aux gens de se retrouver. C'est plutôt positif. Il y a des beaux travaux qui ont été faits. On est quand même bien installés. Et globalement, il y a eu du monde.
Un salon organisé par Pacific Fair qui refermait ses portes à 17h. Notez que d'autres initiatives seront encore organisées durant ce mois de mars. Les valeurs du sport et du rugby étaient célébrées à l'occasion du nouveau match du 15 du Pacifique. L'équipe militaire faisait face hier soir à la sélection de Nouvelle-Calédonie au stade Waitanaki de Dimbéa. Une rencontre amicale. À l'issue de la rencontre, la sélection calédonienne s'est imposée 34-10. Le public est venu nombreux. Le général Soubrier est le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Ce que je retiens, c'est deux équipes très engagées. On voyait que chaque équipe voulait gagner, donc c'était important. Beaucoup d'engagement sur le terrain avec des échanges qui étaient beaux. Et donc nous avons passé vraiment un très beau moment. Deux équipes qui étaient à peu près, je pense, du même niveau. J'avoue, les Cagous ont quand même un très bon niveau. Le 15 du Pacifique n'a pas démérité. Je remercie d'ailleurs les spectateurs qui étaient là. On était très nombreux autour du stade. Merci aussi pour l'organisation. C'était vraiment un très bon moment, une très belle soirée.
Le 15 du Pacifique qui était en tournée en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des commémorations des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique. L'équipe militaire avait battu le week-end dernier le RC Mondor, champion de Calédonie en titre, sur le score de 38-14. La grande finale du championnat de barbecue de Nouvelle-Calédonie 2025. Et l'équipe Euskadi de Nandaï Abouraï est la grande gagnante du jour. Les six équipes sélectionnées l'année dernière lors des foires de Bouraï et de Koumak, puis au Barbecue and Grill de Nouméa, se sont affrontées sur l'îlot Amédée aujourd'hui. Au total, 30 assiettes ont été préparées, mettant à l'honneur 4 différents produits. Le tout cuisiné au barbecue avec créativité et savoir-faire. Pour Thierry Miloud, président de l'association Barbecue NC, cette finale était une réussite.
C'est tout juste magnifique la journée qu'on vient de passer. Quand on dit qu'il fait toujours beau au Paramédé, ben, ce n'est pas une publicité mensongère. Donc on a eu un super beau temps, les équipes se sont éclatées sur les réalisations qu'on leur a demandé de faire. il y a vraiment eu du très 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 bon travail. En fait, il y a eu 5 protéines à cuire, chaque protéine ayant un champion différent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le champion poisson, il y a le champion agneau, il y a le champion porc, il y a le champion bœuf, il y a le champion burger. Et en fait, sur les 5 prix qui ont été mis en jeu, une équipe, on a gagné 4 sur 5. C'est l'équipe de Bouraille, là, qui ont fait un super boulot. Ils ont été sur une régularité, présents au bon moment sur chaque produit avec des recettes totalement différentes. Et ils ont fait vraiment le show. Toutes les équipes étaient composées de 3 personnes. Et donc là, c'est les 3 gagnants, là, qui vont avoir leur billet d'avion et partir sur le Mid-Stock en Australie.
Et c'est donc l'équipe Euskadi composée de Hicham Aitradi, Steven Boulik et Greg Kazer qui a remporté 4 épreuves sur 5. Les cuissons du poisson, de l'agneau, du porc et du bœuf. La réaction de Greg Kazer, l'un des gagnants du jour.
Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné. Par contre, on avait pour objectif de se faire vraiment plaisir et de ne pas se prendre la tête. Et là-dessus, c'était mission accomplie. On a eu des très beaux produits à travailler, un bel encadrement, un site magnifique. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on fasse un bon boulot. Et puis, après, c'est les jurys qui ont décidé. Je ne saurais pas vraiment vous dire ce qui a fait la différence. On y a été sans préparation, sans stress et finalement, c'est passé. On est resté vraiment classique. Je pense que c'est peut-être la pointe des cuissons qui a fait la différence. Parce qu'en regardant un peu autour, il y avait quand même des cette magnifique qui sortait. Donc, je sais pas, j'en discuterai un peu avec les jurys, mais en tous les cas, on est vraiment ravis.
La première réaction quand on vous a annoncé que c'était vous qui avez gagné
Vraiment surpris parce qu'ils ont annoncé les prix au fur et à mesure. Donc, on a été appelé une première fois pour le poisson, on a été appelé une deuxième fois pour l'agneau, une troisième fois pour le porc, une quatrième fois pour le bœuf. La seule qu'on n'a pas gagnée, c'est la dernière du burger. Donc, vraiment très, très surpris et très, très heureux.
En effet, la 5e épreuve a été remportée par l'équipe du RSMA, les Marsouins du Grill, pour cette équipe composée de Prisca Ounin, Guillaume Flamand et François Hurtevant. C'est une fierté d'avoir représenté le RSMA et de l'emporter dans la catégorie burger. François Hurtevant nous en dit plus.
Très ravi déjà d'avoir participé à ce concours. L'ambiance qu'il y avait entre les équipes, au sein des équipes, on a vu beaucoup de belles choses et finalement on n'avait pas tellement le temps de savourer parce qu'on était complètement dedans pour le timing précis des services des plats. Mais à côté de ça, super content d'avoir remporté une épreuve, celle des burgers, que l'on a nommé Rusa Burger. Il était à base de sarfrusa, d'où le nom Rusa Burger. Ce que nous avons voulu faire au niveau de l'équipe, c'était de faire un burger très léger, non bourratif. Donc on a évité tout ce qui est sauce lourde, le gras, en fait, on a limité tout ça. Et notre base était une bringelle, c'est un caviar d'aubergine, agrémenté d'oignons, de gingembre, de combava et de piment végétarien. Un piment qui ne pique pas. Ensuite, le steak, du fromage, tomates confites, confit d'oignons et de la salade. A priori, ça a donné envie.
Et les grands gagnants, l'équipe Euskadi de Nandaï, ont remporté un billet pour Sydney où le trio représentera donc la Calédonie au mois de mai prochain lors d'une grande compétition internationale de barbecue, le Mid-Stock australien. Ce dimanche, sur la place des Cocotiers, c'était le moment de retrouver le grand vide-grenier de la ville de Nouméa qui avait dû être reporté le week-end dernier en raison d'une météo incertaine. Les visiteurs ont répondu présents.
Pour les enfants surtout, pour les filles, pour la rentrée, des chaussures, des petits linges, tout ça. Puis des petits trucs qui nous fait plaisir, voilà, des petits coups de cœur en prend quand c'est pas cher.
Des shorts avec... un cahier et des livres.
Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de se balader, de trouver des bonnes affaires. Et voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup le dimanche. Je me réveille généralement assez tôt pour venir profiter. J'ai trouvé pas mal de choses, alors un peu moins pour moi, mais beaucoup pour ma fille.
Par exemple.
Donc je suis contente. Je vais chercher des shorts. Donc j'ai trouvé pas mal de shorts, de leggings, sport, des bonnes marques en plus pour vraiment pas cher.
T'as trouvé quoi par exemple ?
Une flamant rose,
c'est une peluche.
Franchement il est bien, il y a un peu moins de monde que d'habitude.
Et vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît ?
Oui, pas mal de choses dans ma collection Star Wars. C'est un drone.
Et vous avez trouvé d'autres choses qui vous plaisent ?
Ma femme, des habits.
Ça fait plaisir d'être déjà sous le soleil. On rencontre du monde, on voit des amis qui exposent, des amis qui chinent comme nous, et c'est cool. Je suis persuadé qu'on va trouver quelque chose de sympa pour mon fils qui est là, qui a profité de l'occasion pour vider sa tirelire et il s'est dit, tiens, je vais aller... Il m'a même dit, je vais faire un cadeau pour papa.
Voilà des propos recueillis par Kéline Dabouakou. Il est 18h passé de 5 minutes, on va tourner une courte pause publicitaire avant de voir toute l'actualité nationale et dans le monde. À tout de suite.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Mickaël Juneski.
La situation au Moyen-Orient. On entre dans la deuxième semaine de guerre. Les bombardements s'intensifient en Iran, à Téhéran, la capitale, mais aussi à Isfahan. Selon Israël, plus de 80 avions de chasse ont frappé l'Iran dans l'un des raids les plus importants menés depuis le début du conflit. Des milliers de cibles, notamment militaires, ont été frappées. Tzal, qui dit avoir mené 3400 frappes au total depuis le début de la guerre. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est exprimé à la télévision pour déclarer qu'Israël continuera de frapper l'Iran.
Vous me dites à moi, au gouvernement, aux soldats et à nos commandants héroïques de continuer jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Grâce à nos courageux pilotes et aux États-Unis, nous avons pratiquement obtenu le contrôle total du ciel de Téhéran. Nous ferons, en tout état de cause, tout ce qui est nécessaire pour protéger nos communautés et nos citoyens. Quant aux prochaines étapes en Iran, nous avons un plan méthodique avec de nombreuses surprises pour déstabiliser le régime et permettre le changement.
Le régime de Téhéran annonce que l'Iran sera forcé de riposter contre ses pays voisins si leur territoire est utilisé pour l'attaquer, a averti le président iranien. L'Iran qui a frappé les pays du Golfe dans la journée, notamment le Koweït ou les Émirats Arabes Unis. De son côté, Donald Trump maintient, lui, le flou concernant la durée de cette guerre, même si les États-Unis seraient engagés militairement aussi longtemps que nécessaire, a fait savoir la Maison-Blanche. L'intervention militaire américaine qui a fait ses premières victimes, les dépouilles de 6 soldats tués au Moyen-Orient, étaient accueillies hier par Donald Trump et les membres de son administration. Le locataire de la Maison-Blanche, qui a également participé à une courte cérémonie, malgré ses pertes humaines, Donald Trump se dit satisfait après cette première semaine de conflit. La guerre menée par Israël se joue également sur un deuxième front, c'est bien sûr le Liban. 450 000 personnes déplacées ont été recensées dans le pays après les frappes israéliennes qui ont lieu depuis lundi. Le premier ministre libanais parle d'un désastre humanitaire. Les frappes de Tzal se poursuivent sur place. Laura Legault pour Europe 1.
Hier soir encore, l'armée israélienne a appelé les derniers habitants restés dans la banlieue sud de Beyrouth à évacuer. Preuve que de nouvelles frappes sont prévues. La banlieue sud de Beyrouth est le bastion du Hezbollah, cible de Tzal. Au bombardement s'ajoutent des incursions terrestres menées par l'armée israélienne dans la localité de Qiam, au sud du pays. Conséquence, des milliers de Libanais sont déplacés, dont certains critiquent le rôle du Hezbollah comme cette habitante.
Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire la guerre. Et bien sûr, je n'en sais pas plus que le Hezbollah, mais ils auraient dû assurer la sécurité de leur population avant le début des combats. Ils auraient dû nous protéger, nous aussi, plutôt que de nous laisser nous débrouiller seuls.
Un rejet majoritaire au sein de la population, selon Michel Fayad, analyste géopolitique.
95% des Libanais sont contre le Hezbollah. Ils sont prêts à ne pas dormir de la nuit, ils sont prêts à voir leur maison détruite, d'accord, mais que ce soit la dernière. Que cette fois-ci, Israël aille jusqu'au bout, termine du Hezbollah, pour qu'enfin le Liban puisse vivre à nouveau comme il l'était avant les années 60.
Israël a par ailleurs sommé le gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah sous peine de mesures plus sévères.
Laura Legault pour Europe 1. Je rappelle que le président français Emmanuel Macron a renforcé la présence militaire française dans la région. Une frégate est positionnée à Chypre et le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. La mer Rouge est sécurisée et une coalition tente de reprendre le détroit d'Ormuz. La situation est toujours compliquée sur ce site majeur du commerce mondial. Une cinquantaine de navires sous pavillon français sont toujours à l'arrêt. Au total, c'est même 20 000 marins, 15 000 passagers et de croisières qui sont immobilisés dans le golfe Persique selon l'Organisation Maritime Internationale. C'est toute une artère maritime mondiale qui se retrouve paralysée. Mais selon Jérôme Derrick, expert maritime pour la plateforme Upli, la situation pourrait se débloquer.
Ces derniers jours ont vu un trafic très très faible par le détroit, essentiellement pour des questions d'assurance. Les propriétaires des navires ont essayé de pouvoir trouver des solutions d'assurance exceptionnelles. Dans la majorité des cas, en début de semaine, ils n'ont pas trouvé de solution assurantielle. Mais les choses ont un petit peu bougé. Il y a eu un plan de l'administration Trump pour se substituer aux assureurs classiques. On se rend compte que malgré le conflit, il y a une espèce d'intérêt supérieur à ce que la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Japon puissent pouvoir rebénéficier de ce trafic pétrolier dans une vision et dans un esprit de détente. Donc on est un petit peu peut-être à l'aube de ce qu'on appelle un effet cool down pour éviter trop de spéculation internationale sur les marchés pétroliers et qui pourraient être très nuisible pour l'économie planétaire.
Jérôme Deréclès, expert maritime pour la plateforme Upli. Le Quai d'Orsay a également fait le point sur la situation des Français encore au Moyen-Orient. 4300 ressortissants ont pu rentrer en métropole depuis le début du conflit. 18h11, une dernière pause publicitaire avant de voir tout le sport.
Jusqu'au 14 mars, suivez et vivez le tournoi Destination 2026 sur Radio Rythme Bleu avec Elia by OPT. Rendez-vous sur notre site elia.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. Elia, au cœur de toutes tes collections.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, la F1, c'est reparti pour un tour avec le championnat du monde 2026.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
L'ouverture de la saison, c'était donc le Grand Prix d'Australie, Lionel Sabot.
Eh ben mes cadets, ben mes petits frères, ça commence bien, comme le disait Louis de Funès dans l'excellent film La soupe aux choux. Alors pas de choux, ni même de grimaces pour la soupe cet après-midi du côté de Melbourne. Si certains s'inquiétaient avec la nouvelle réglementation de voir la Formule 1 ennuyante, eh ben ils se sont trompés. On s'est juste régalé pendant tout ce Grand Prix avec des dépassements, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Finalement, la nouvelle réglementation fait du bien à la Formule 1 qui est rentrée dans une nouvelle ère. Côté classement, c'est George Russell sur sa Mercedes qui s'est imposé cet après-midi. Il a devancé son coéquipier de chez Mercedes, Kimi Antonelli, l'Italien. Et derrière les Mercedes, les deux Ferrari, celle de Charles Leclerc et celle de Lewis Hamilton. Réaction de Frédéric Vasseur, c'est le team manager de la Scuderia.
Les enseignements, oui, forcément plein. Je pense que déjà, que Mercedes est quand même un peu plus vite que nous dans toutes les conditions. Qualif, course et tout, donc ça c'est clair. Après, je pense qu'on fait plutôt une bonne course aujourd'hui. Faut qu'on progresse, mais on fait plutôt une bonne course aujourd'hui. L'écart, je ne sais pas si c'est 4, 5, 6 dixièmes aujourd'hui, mais il était encore important. Donc voilà, après on a une liste énorme de choses à améliorer sur la voiture, dans l'équipe, sur le fonctionnement, sur la compréhension de la réglementation, donc on peut être optimiste pour ça, mais il y a beaucoup de travail.
Deux Mercedes, deux Ferrari, puis une McLaren, celle de Lando Norris, le champion du monde en titre, qui a pris la cinquième place, juste devant un certain Max Verstappen, le quadruple champion du monde, qui s'est pourtant élancé depuis la dernière ligne de ce Grand Prix. Notez qu'il s'est passé beaucoup de choses, 6 abandons notamment, abandons sans surprise des Aston Martin, de Lance Stroll et de Fernando Alonso, qui ont des très très gros problème, la voiture vibre et c'est insupportable pour les pilotes. Abandon également, et ça c'est bien dommage, d'Isaac Hadjar, le français, il avait signé le troisième temps sur la grille de départ. Son moteur, eh bien, n'a pas survécu à ce premier Grand Prix de la saison. Élimination et abandon également d'Oscar Piastri sur McLaren. Piastri qui n'a même pas pris le départ puisqu'il s'est mis dans le mur au moment du tour de mise en grille, c'est-à-dire une petite demi-heure avant le départ. Côté français, on notera la belle 10e place de Pierre Gasly sur Alpine et la 11e place d'Esteban Ocon sur Haas. On notera également que Audi marque ses premiers points en Formule 1. Gabriel Bortoleto a pris la 9e place. Le prochain Grand Prix, youpi, ce sera la semaine prochaine et ce sera en Chine. Et franchement, on a hâte.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, on passe au football avec la 25e de journée de Ligue 1 qui continue ce soir et demain matin, Lionel Sabot.
Effectivement, et Lens qui aura l'occasion de revenir sur le Paris Saint-Germain, le PSG qui s'est incliné, on le sait, en ouverture de cette journée 3-1. Eh bien, les Lensois auront l'occasion de revenir à une petite longueur des Parisiens demain matin. Lens qui recevra Metz, les autres matchs à suivre demain. Brest qui accueillera Le Havre, Nice recevra Rennes, Lille accueillera Lorient et puis nous suivrons de près la rencontre entre Lyon et le Paris FC, le club d'Antoine Comboiré. Rappelons que ce matin, Nantes a été battu à domicile une nouvelle fois 1-0 par Angers. Ça va mal, très très mal pour les Canaries. Auxerre et Strasbourg ont fait match nul 0-0. Quant à Marseille, bien les Marseillais se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Toulouse. Ils se rachètent un peu de leur élimination en Coupe de France cette semaine par ces mêmes Toulousains.
Allez, le week-end était également marqué, évidemment, par l'actualité du rugby.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et tout reste à faire dans le tournoi destination après la défaite de la France en Écosse.
Mais oui, qu'est-ce que tu vous foutais, l'équipe de France, enfin. Il y avait eu la soupe aux choux il y a un instant, maintenant c'est taxi. On est dans la réplique de film avant le festival de Cannes. Les Français qui ont été battus ce matin par les Écossais. Revers 50-40, trop d'inconstance pour les Bleus. L'arrière du 15 de France, Thomas Ramos, ne comprend pas franchement ce qui s'est passé dans ce match.
Trop laissé le ballon à cette équipe, trop subi, voilà, c'est dommage. Il y a 15-20 bonnes minutes peut-être à la fin, je sais pas exactement, mais où on s'est peut-être un peu plus retrouvé dans notre rugby, mais voilà, sur la première mi-temps, on a deux actions, on marque deux essais, derrière on fait plus rien. On met 14 points et puis derrière plus rien, donc comme quoi c'est bien, ça nous montre que rien n'est acquis. À nous d'apprendre cela encore, quoi.
Et il faudra relever la tête et oublier cette défaite pour aller chercher la victoire finale dans le tournoi. Ce sera contre nos meilleurs ennemis, les Anglais. Ce sera dans une semaine au Stade de France. L'Angleterre qui risque d'être remontée comme une pendule après avoir été battue ce week-end par l'Italie, 23-18. Première défaite de l'Angleterre face à la Squadra Azzurra. Notez qu'au classement, l'Irlande est 3e, l'Italie 4e, l'Angleterre avant-dernière, suivie du Pays de Galles. La France est toujours en tête, juste devant l'Écosse.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Le sport en Calédonie et ce beau succès pour la première édition de la Tactical Race. Le principe, on le rappelle, consistait à prendre part à une course avec alternance d'endurance à pied sur deux tours de stade, puis exercice type fitness à réaliser en tout 8 fois. En solo, c'est Tom Biderman qui a terminé en tête avec un temps global d'1h09 51 secondes devant Joachim Trinel et la première féminine, Angélique Plaire, 3e du classement scratch, qui effectuait déjà la course en duo hier. Elle a réalisé ce matin un temps d'1h17 minutes et 29 secondes.
Mais en fait, hier, on a vraiment pris plaisir avec mon coéquipier sur le duo mixte. C'est différent parce que du coup, on court ensemble, on partage les stations, donc on a quand même une économie d'énergie lorsque l'autre travaille. Et en fait, on a pris plaisir hier, on fait l'un des meilleurs chronos mixtes, donc on était contents. J'ai sollicité Caro en lui disant est-ce que c'est possible pour essayer toute seule. Et effectivement, c'est un autre effort, c'est une autre gestion. Mais très contente du temps que j'ai pu faire. Et puis voilà, mes filles seront contentes, elles auront deux médailles pour rentrer à la maison. Alors en fait, les gens, je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte de l'organisation générale d'un événement pareil. Et voilà, je souligne vraiment l'association Fit Energy parce que il y a beaucoup de mains qui œuvrent à ce genre d'événement. Donc vraiment, chapeau à cette organisation parce que il y a un énorme travail de fait. Donc bravo à eux et merci.
Et plus de 250 participants étaient engagés sur cette première. Une réussite pour les organisateurs de Fit Energy. En golf, la deuxième édition de la Ryder Cup calédonienne se jouait à Bouray sur les greens de Deva. Comme l'année dernière, deux équipes se retrouvaient pour un affrontement en sudiste broussard, c'est-à-dire Dimbéa et Tina contre Lawengui et Deva. Les broussards ont conservé le trophée en l'emportant 27,5 à 9,5. Tony Rayard, l'organisateur de cette compétition.
On en a vu du beau golf, un bel état d'esprit, d'opposition, de rencontre, de match. Donc l'idée, c'était vraiment de regrouper tous ces golfeurs sur un week-end et de partager au-delà de juste la partie. L'événement va se pérenniser. Il y aura l'édition 2027. Nos golfeurs sont friands de ce genre d'événement complet, hein, où il y a du partage, la convivialité, c'est surtout ça qu'on recherche sur ce type de week-end, hein, c'est pas forcément. Il y a le côté sportif, bien évidemment, mais ce que les gens recherchent, c'est, voilà, partager leur passion tout au long du week-end, en allant un petit peu plus loin que la partie de golf. On avait un super buffet chinois pour fêter le nouvel an chinois qui était organisé par le Sheraton, qui était excellent. Je pense que tout le monde a hâte de revenir profiter de ce type d'événement sur le resort.
Les équipes qui comptaient chacune dans le rang, 18 joueuses et joueurs venus des 4 clubs du territoire. 18h passées de 20 minutes, on termine ce journal avec la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
Une météo que vous nous détaillez, Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Cette nuit, aux Loyautés, les nuages resteront nombreux et donneront des averses parfois soutenues. Sur l'ouest et la pointe sud, après un début de nuit encore nuageux et accompagné d'averses, le ciel se dégagera progressivement. Sur les autres régions, les étoiles brilleront sous un léger voile d'altitude. Le vent faiblira nettement et deviendra le plus souvent variable et faible, à l'exception du sud de la Grande Terre, où il se maintiendra de secteur nord-ouest entre 5 et 10 nœuds. Les températures, quant à elles, varieront peu, comprises entre 21 et 25. 5 degrés. Demain matin, après dissipation des nuages encore présents aux Loyautés, le soleil s'imposera largement sur l'ensemble du territoire. Le vent d'ouest à nord-ouest s'installera généralement entre 5 et 10 nœuds, tandis qu'il restera souvent variable et faible sur la pointe nord et vers Ouvéa. Côté mer, la marée sera haute ce soir à 23h20, puis basse demain matin vers 5h20 avec des coefficients entre 1,42 m et 68 cm. Et côté ciel, la lune éclairera la nuit avec un clair de lune proche de 76%, suffisant pour accompagner les étoiles au-dessus du lagon calédonien.
Merci beaucoup Pierre pour la météo, la technique. C'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'information à 19h. Passez une excellente soirée sur RRB.